12h à 14h avec JP, Marcel et Tony pour Ambiance Soleil. Moi je vous laisse avec Polémix et la voix off et on se donne rendez-vous demain matin dès 9h avec Chantal pour Dimanche Bonheur. Salut, à demain.
Radio G, 101.5 FM.
Le pouvoir possède la radio et la télévision.
On ne peut pas savoir où on est ni où on va si on ne sait pas d'où on vient. Pas besoin d'être un grand savant pour s'intéresser à l'histoire, la géopolitique ou l'économie. Surtout quand c'est expliqué par une bande de profs d'histoire géo qui n'ont pas la langue dans leur poche. Des exposés parfois assez différents de ce qu'on nous dit à l'école et dans les médias dominants. L'histoire, la géopolitique et l'économie s'intéressent à vous. Intéressez-vous à elles les samedis à 12h sur Radio G avec Polémix et la voix off.
Le pouvoir possède la radio et la télévision.
Eh bien, c'est maintenant le grand rendez-vous.
Nous comptons sur la bonne volonté et sur la compréhension de tout le monde.
La voix off.
La société telle qu'elle fonctionne actuellement fabrique des inégalités, fabrique des différences et entretient les différences. Ça lui est extrêmement profitable. La division des citoyens, la division des travailleurs entre eux, c'est le principal moyen de gouverner des gens actuellement au pouvoir. Attaquons-nous à l'inégalité et dans ce combat, les replis identitaires, c'est un désastre politique. C'est une régression. On va devenir aussi crétins que les Amerlocs.
Des minorités combattant pour leurs droits de minorité se battent-elles aussi pour une société meilleure pour tout le monde ? Gays, trans, LGBT+, femmes, arabes, harkis, noirs, juifs, musulmans et autres minorités discriminées, dans la légitime urgence d'agir, et vu le manque de solidarité, notamment entre groupes militants, on comprend bien que certains montent au créneau pour défendre leurs droits, sans chercher ni aide extérieure ni alliance. Mais toutes ces petites luttes font bien le jeu du pouvoir. Diviser pour mieux régner, c'est vieux comme le monde. On en parle tout à l'heure avec notre copain André, le prof d'histoire géo, autour d'un article du Monde Diplomatique. Salut André.
Salut.
Avec nous également pour cette spéciale diplo, l'ami Daniel. Salut Daniel.
Bonjour à tous.
En toute fin d'émission, chronique remarques sur les médias avec notre ami Philippe.
Bonjour.
Dans cette émission, on a peu parlé de l'épidémie, en estimant que c'était pas la peine d'en rajouter à l'hystérie médiatique autour de la Covid. Mais on va quand même évoquer l'odieux business des laboratoires qui, avec les vaccins, continuent à accumuler d'indécentes fortunes sur le dos des contribuables. On en parle tout de suite avec Cédric. Salut les amis, c'est JBD, c'est la voix off, spécial monde diplomatique. Salut Cédric.
Salut.
À la une du Monde Diplomatique de mars 2021, toute puissance des laboratoires. Les brevets, obstacle au vaccin pour tous. Bien qu'elles aient mis au point les vaccins anti-Covid-19 avec des flots d'argent public, les compagnies pharmaceutiques les vendent au plus offrant. Tout au plus acceptent-elles d'en garder des doses dans leur nation d'origine. Et si les gouvernements imposaient la levée du droit de propriété intellectuelle afin que les pays qu'ils peuvent produisent pour les autres.
La crise sanitaire que nous connaissons, comme toutes les crises, est un moment de révélation des failles, des errements, des problèmes. Elle ne les crée pas, elle les révèle. Une crise, c'est un moment tragique, bien sûr, mais c'est aussi un moment qui nous permet de réfléchir, de sortir de l'anormalité rampante à laquelle nous confinent les médias dominants, nos dirigeants adeptes de la politique du chien crevé au fil de l'eau.
Courageuse politique du chien crevé au fil de l'eau.
Courageuse politique du chien crevé au fil de l'eau. Et bien sûr aussi de nos petites lâchetés et de nos préoccupations du quotidien. En quoi cette crise nous permet-elle de réfléchir sur des problèmes bien plus larges que les problèmes sanitaires, hein, terribles auxquels nous sommes confrontés? D'abord, la prise de conscience des mensonges des États qui, la main sur le cœur, avaient tous promis lors de la première vague que les vaccins, quand ils seraient disponibles, deviendraient des biens publics mondiaux afin d'éviter, je cite Emmanuel Macron, le scénario d'un monde à deux vitesses opposant pays riches et pays pauvres. Ces belles promesses n'ont pas été tenues. Ce constat, il a été fait par le directeur général de l'OMS à plusieurs reprises, qui a dénoncé cette situation. L'OMS avait pourtant mis en place des mécanismes visant à répartir de façon la moins inégale possible les fameux vaccins qui ont été créés en un temps record. En moins d'un an, hein, on a des vaccins, alors qu'il y a des maladies tropicales, bien sûr, qui ne sont pas traitées depuis des éternités. Alors, qu'avait mis en place l'OMS ? D'abord, un mécanisme appelé COVAX, qui visait à faire que l'OMS commande des doses auprès de Pfizer et AstraZeneca, et que ensuite, ça soit l'OMS qui assure la distribution. Deuxième mécanisme, le COVID-19 Technology Access Pool, qui aurait dû garantir le partage de la propriété intellectuelle, à savoir la connaissance et les savoir-faire de production, afin de pouvoir élargir le plus rapidement possible les sites de production, y compris dans des pays qui, certes, n'ont pas les brevets, mais qui disposent d'un outillage industriel, je pense à des pays comme l'Inde ou l'Afrique du Sud, qui auraient pu ainsi développer la production de ces vaccins à grande échelle. C'était des beaux projets, hein, c'était chouette, sauf qu'ils sont restés à l'état de jolies mémoires cachées au fond d'une armoire. Ça n'a pas abouti. Un constat, les pays riches représentent aujourd'hui 13% de la population mondiale et ils ont commandé 51% des doses disponibles selon Oxfam. Pourquoi un tel échec de la part d'une organisation internationale hein, comme l'OMS ? Eh bien, c'est parce que se pose la loi des reins du capitalisme, socialisation des pertes et privatisation des profits. Effectivement, les laboratoires ont été largement subventionnés par des crédits publics. Ainsi, la Commission européenne, par exemple, a donné 2 milliards d'euros pour limiter les risques d'investissement des entreprises. Mais celles-ci ont gardé la haute main sur les brevets et négocient âprement les prix. L'AstraZeneca était vendu 1,78€ la dose. Le Moderna était vendu 14,68€ la dose. Ça fait un petit pactole sympathique. Alors, que face à l'urgence sanitaire, les pouvoirs publics soient obligés, vu la situation, de financer des laboratoires privés, on peut à la limite comprendre l'urgence. Sauf que dans un contrat, eh bien, il faut qu'il y ait deux parties qui parlent à égalité. Or là, les obligations qui ont été posées aux grands laboratoires pharmaceutiques n'ont pas été à la hauteur des financements qui ont été donnés. Ainsi, les clauses de livraison restent totalement aléatoires et aberrantes. Les entreprises ont aussi négocié une responsabilité juridique limitée en cas de retard ou en cas d'effet secondaire. On produit rapidement, mais bon, s'il y a des problèmes, ce ne sera pas de notre faute. On voit donc là le résultat d'une intrication croissante entre la recherche fondamentale, les fonds publics nécessaires, car les coûts sont totalement exorbitants dans les domaines de la recherche, notamment médicale ou pharmaceutique, et le secteur privé. Cela pose plusieurs problèmes. Premier élément, ces partenariats devraient être un moment de renégociation entre les États et les partenaires privés. Or, les droits sur la propriété intellectuelle ont tendance à se renforcer, protégeant ainsi les intérêts des grandes compagnies privées. Deuxième problème, c'est que le système de protection sociale renforce la solvabilité des marchés. Ainsi, les firmes pharmaceutiques peuvent considérablement augmenter les prix et ces prix sont en totale déconnexion avec le prix réel de production. C'est le citoyen qui paye, par la protection sociale, les bénéfices scandaleux des entreprises pharmaceutiques. On voit là donc une véritable stratégie de prédation des ressources publiques par des requins sans foi ni loi. Pourtant, il existe un outil juridique qui n'est pas nouveau puisqu'il date de 1925. Il a été réactualisé dans le cadre de la déclaration de Doha de 2001. Donc ça dure 30 ans, une propriété intellectuelle pour un vaccin. Je cite donc l'article 31 des accords des droits de propriété intellectuelle de la déclaration de Doha. Donc l'article 31 stipule que on peut déroger aux 30 ans de propriété intellectuelle dans des situations d'urgence nationale ou d'autres circonstances d'extrême urgence ou en cas d'utilisation publique à des fins non commerciales. Et ce, sans autorisation du détenteur du droit. C'est-à-dire que l'État, en théorie, peut imposer à un laboratoire pharmaceutique le fait de perdre sa propriété intellectuelle. Bizarrement, on ne voit aucun chef d'État monter au créneau pour attaquer sur ce principe-là, alors que ça appartient au droit international, en fait, et ça a été ratifié par tous les grands États. Pourquoi ce manque de courage ? Premier élément, il y a un problème de définition du mot « urgence », des situations d'urgence nationale ou d'autres circonstances d'extrême urgence. Donc les avocats des grands laboratoires pharmaceutiques disent qu'il n'y a pas d'urgence. Et on peut jouer effectivement juridiquement sur le terme d'urgence qui est en fait très imprécis d'un point de vue juridique. Deuxième problème, c'est que même si on appliquait cet article 31, on s'aperçoit qu'il y a des problèmes logistiques pour fabriquer les vaccins, les composants, etc. Même la France, sixième puissance industrielle mondiale, s'est avérée incapable de produire rapidement ces vaccins. Et encore aujourd'hui, notre capacité de production est insuffisante pour couvrir nos besoins. Alors on ne parle même pas des besoins internationaux. Ceci est bien sûr lié à une perte de technologie et de savoir-faire qui est liée à la politique criminelle de désindustrialisation menée depuis des décennies par nos pouvoirs publics. Il y a des enjeux géostratégiques puisque les attaques contre les grandes firmes pharmaceutiques supposent de s'attaquer aux intérêts, notamment américains. Et les Européens n'ont pas le courage de s'attaquer aux grandes firmes états-uniennes de peur de froisser leur allié traditionnel. Alors que les États-Unis n'ont pas hésité, après le choc du 11 septembre 2001, à menacer de faire sauter les brevets de Bayer qui fabriquaient des médicaments contre l'anthrax, ils ont sérieusement menacé Bayer de rendre public les brevets de fabrication. Finalement, il y a une négociation qui a permis de baisser considérablement le prix des médicaments Bayer. Donc les États-Unis, quand ils sont confrontés à un problème, n'hésitent pas à aller dans l'épreuve de force, ce que se refusent de faire les dirigeants européens. Que nous apprend cet article sur des choses qu'on a déjà dites et redites ?
La pédagogie, c'est l'art de la répétition.
C'est l'art de la répétition.
Mais c'est vrai, avec André, on en parle souvent. On fait de la radio depuis 2003. Finalement, quel que soit le thème, j'ai l'impression qu'on fait toujours la même émission.
Parce qu'en fait, l'ennemi, il est transversal. L'ennemi, c'est quoi ? C'est l'idéologie libérale qui affaiblit nos économies, qui affaiblit nos savoir-faire. L'État, l'Europe, l'OMS doivent être les garants d'une véritable politique publique pour investir dans les champs essentiels que sont les champs de la santé, pour qu'on ait un vrai service public de la santé, de la recherche, de la pharmacie. Or, c'est malheureux de le dire, mais on va totalement dans l'autre sens, comme le démontrent les différents éléments de cet article.
Philippe, depuis des années, je crois que la plupart des médicaments mondiaux sont faits en Inde et en Chine parce qu'on a trouvé plus rentable que ça soit l'ouvrier indien ou chinois qui le fasse. En Europe, nous n'avons plus du tout de vaccin.
Parce que la logique de la mondialisation, c'est de spécialiser les territoires dans des types de production. Ces territoires deviennent totalement interdépendants. Et avec la mise en contact grâce au transport pas cher, etc., mais producteurs de pollution et producteurs de dépendance extrême vis-à-vis d'États en lutte géopolitique. Et donc, se départir d'éléments aussi essentiels que la santé, la nourriture, c'est complètement suicidaire. Ne pas croire que le régime chinois ou états-unien veut le bonheur des Européens. Chacun défend son beefsteak. Et les entreprises privées défendent leurs intérêts, leur portefeuille, leur pognon. Et croire que ce sont de bons samaritains qui vont aller distribuer les doses de vaccins, il faut soit être naïf, soit être totalement con, ou soit être encore pire, malhonnête.
Je veux dire en fait que le monde d'après, il est encore pire que celui d'avant.
Il y a certains médicaments qui coûtent très peu à produire, mais sont vendus à des prix délirants. Et quand les laboratoires disent que les recherches coûtent cher, ils se moquent du monde, parce qu'une bonne partie du prix, c'est la rémunération des actionnaires et la publicité, c'est pas la recherche.
Délirant, mais pas prohibitif. Délirant aux yeux de la plupart des humains sur Terre, qui ne peuvent pas accéder à ces services, et non prohibitif, parce que nous, c'est les pouvoirs publics, c'est la sécurité sociale qui paye. Il y a quand même une interrogation sur le fait que ça soit la collectivité qui paye un prix largement surévalué par rapport à ce que ça coûte réellement. Et donc, c'est pas de la faute du système de protection sociale, c'est pas de la faute du malade, c'est de la faute des laboratoires pharmaceutiques. Et on pourrait ainsi multiplier les exemples. Et là, ça pose un vrai questionnement.
C'est un truc d'ailleurs qui est un petit peu dysfonctionnant depuis la création, en tout cas le recimentage général du système de sécurité sociale par le ministre Ambroise Croizat, c'est que depuis 1946, la Sécu, c'est aussi la pompe à fric des fabricants de médicaments privés. C'est grâce à ce système généreux qui garantissait la santé à tout le monde que les Servier, Rhône Poulenc, Sanofi et je ne sais quoi se construisent des fortunes colossales. Peut-être qu'on pourrait nationaliser sans indemnisation sec tous ces gens qui se sont engraissés d'argent public depuis bon allez hop les vaccins c'est par ici.
Salut Bossy.
Oui, André.
Oui, je partage votre désir de confisquer purement et simplement les laboratoires pharmaceutiques au profit d'une santé publique nationale et internationale. Mais je voudrais également préciser que lorsque on nous dit oh il faut bien rémunérer la recherche etc. mais qui paye l'essentiel de la recherche ? Ce ne sont pas les laboratoires, ce sont les fonds publics. Par qui sont formés les chercheurs ? Par nous, par notre pognon. Ensuite, après, évidemment, puisqu'on ne leur donne pas les moyens d'être rémunérés correctement et de travailler, d'être payés dans un système public, ben, ils vont vers les gens qui les payent, c'est-à-dire les laboratoires privés. Mais c'est nous qui payons la recherche. Ce n'est pas les laboratoires, bande de cons.
André en pleine forme pour cette spéciale diplo, on le retrouve juste après la chansonnette.
J'ai la rate qui se dilate, j'ai le foie qui est pas droit, j'ai le ventre qui se rentre, j'ai le pylore qui se colore, j'ai le gosier anémié, l'estomac bien trop bas et les côtes bien trop hautes, j'ai les hanches qui se démangent, l'épigastre qui s'encastre, l'abdomen qui se démène, j'ai le thorax qui se désaxe, la poitrine qui se débine, les épaules qui se frôlent, j'ai les reins bien trop fins, les boyaux bien trop gros, j'ai le sternum qui se dégomme et le sacrum, c'est tout comme, j'ai le nombril tout en vrille et le coccyx qui se dévisse, et puis j'ai ajouté, voyez-vous, ce n'est pas tout, j'ai les genoux qui sont mous, j'ai le fémur qui est trop dur, j'ai les cuisses qui se raidissent, les guiboles qui flageolent, j'ai les chevilles qui se tortillent, les rotules qui ondulent, les tibias raplapla, les mollets trop épais, les orteils pas pareils, j'ai le cœur en largeur, les poumons tout en long, l'occiput qui chahute, j'ai les coudes qui se dessoudent, j'ai les seins sous le bassin et le bassin qui est pas sain. En plus de ça, je vous le cache pas, j'ai aussi, quel souci, la luvette trop fuvette, l'œsophage qui surnage, les gencives qui dérivent, j'ai le palais qui est palais, mais les dents c'est navrant, j'ai les petites qui s'irritent et les grosses qui se déchaussent, les canines se ratatinent, les molaires se font la paire, dans les yeux c'est pas mieux, j'ai le droit qui est pas droit et le gauche qui est bien moche, j'ai les cils qui se défilent, les sourcils qui s'épilent, j'ai le menton qui est trop long, les artères trop épaires, j'ai le nez tout bouché, le trou du cou qui se découe et du coup, voyez-vous, je suis gêné pour parler, c'est vexant, car maintenant je suis forcé de m'arrêter. Ah bon Dieu que c'est embêtant d'être toujours patrinque, ah bon Dieu que c'est embêtant, je ne suis pas bien portant.
Deux articles du Monde diplomatique, un premier signé du philosophe Frédéric Lordon, diplôme de mars 2021, article intitulé « Pour favoriser une entente des luttes, anticapitalisme, antiracisme, écologie, féminisme et point de suspension ». Et un autre article paru plus tôt dans le Monde diplomatique de janvier 2021 par Stéphane Beau et Gérard Noiriel, qui sont respectivement un sociologue et historien. Voici l'introduction de l'article de Frédéric Lordon. Où engager le combat quand on ne peut pas tout faire à la fois ? D'abord, en reconnaissant que si les luttes contre les dominations diffèrent en périmètre, elles sont égales en légitimité. Puis, en recommandant que la séparation absolue entre elles cède le pas à l'autonomie relative et à l'attention réciproque. Enfin, en refusant qu'une lutte puisse nuire aux autres luttes. Une fois cela posé, tout peut commencer.
L'introduction dit tout et donne les principales propositions de Frédéric Lordon.
Et finalement, le papier signé par Stéphane Beau et Gérard Noiriel m'a semblé beaucoup plus explicite. En voici l'introduction. S'il s'enracine dans une longue histoire, le langage identitaire a explosé avec les réseaux sociaux et les chaînes d'information en continu. Jadis réservé à la droite, il imprègne désormais les discours des militants et dirigeants politiques de tous bords, au point de transformer la « race » entre guillemets en variable bulldozer qui écrase toutes les autres. Une idée forte, André, avant qu'on rentre dans le gras de ces deux papiers. Avant de militer pour les transsexuels, pour les myopathes, pour les harkis, combattons pour les gens. Avant de définir quelqu'un en fonction de sa couleur de peau, voyons aussi son statut social. Est-ce qu'il est salarié ou patron ?
On a fait part de notre agacement sur un certain nombre d'émissions sur cette parcellisation des luttes et donc sur la division en fait des acteurs des luttes en prétendant se battre contre les violences faites aux femmes ou les violences faites aux minorités de couleur, enfin, telle ou telle partie de la population. On oublie l'essentiel, c'est-à-dire de se battre contre une société, un système qui favorise ces atteintes à la dignité de la personne humaine. Et c'est très dommage, en affaiblissant le combat contre les gens qui nous dominent, parce que, je suis désolé, mais le combat féministe, si indispensable soit-il, ou le combat écologique, si indispensable soit-il, ne peut pas remplacer le combat politique tout court. Je vais essayer d'en donner quelques démonstrations. C'est valable pour tous ces phénomènes identitaires qui, en fait, a un effet contre-productif. Au lieu d'unir, ils divisent. Et enfin, ceux qui nous gouvernent, ça les arrange. C'est d'ailleurs pourquoi cette évolution a été fortement encouragée par les médias qui sont au service de nos dominants, au service de nos maîtres. Et cette américanisation du combat politique, parce que ceci nous vient quand même directement des États-Unis, hein, c'est extrêmement nocif. En fait, ça fait reculer, régresser les combats. Bien sûr, on n'a pas réglé le problème de la domination des femmes, on n'a pas non plus réglé le problème des discriminations raciales, on n'a pas réglé le problème de l'écologie, mais on s'aperçoit qu'à chaque fois qu'un progrès est réalisé, c'est parce qu'il y a eu des modifications politiques au plus haut niveau. C'est-à-dire que les systèmes de domination économique et sociale ont été, au moins pour un temps, victorieusement combattus et ont fait avancer la cause. Bien sûr, Lordon a raison de dire que c'est pas parce qu'on va faire le socialisme qu'on va exproprier les multinationales, les banques et les financiers, c'est pas pour autant qu'on aura réglé le problème des rapports hommes-femmes et de la domination des femmes par les hommes. On n'aura pas réglé non plus le problème des préjugés raciaux, etc. Mais on aura considérablement avancé. On ne peut pas régler ces problèmes-là sans prendre de front tous les problèmes. Et prendre de front tous les problèmes, c'est avoir une action politique, c'est pas avoir une action identitaire. C'est l'ensemble des citoyens, c'est pas soit les femmes, soit les hommes, soit les noirs. Tous ces gens-là sont minoritaires. Renvoyés à leur communauté, ces gens sont minoritaires. 10, 12, 15%. Comme les noirs aux États-Unis. Cette mode qui nous vient des États-Unis, est-ce qu'elle a tourné à l'avantage des noirs ? Ils étaient, au moins jusqu'à la fin des années 60, l'objet d'une discrimination complète dans tous les États américains, pas seulement les États du Sud, dans le Nord aussi, les Noirs étaient l'objet d'un mépris, d'une ségrégation, d'une discrimination insupportable.
L'Amérique était un État d'apartheid, comme ce qui s'est pratiqué en Afrique du Sud pendant très longtemps. Partie du bus pour les Blancs, partie du bus pour les Noirs, et quand il n'y a plus de place pour les Blancs, les Noirs obligés de céder leur place. Et l'apartheid aux États-Unis était défini par la loi.
Théoriquement, le 18e amendement de la Constitution américaine avait supprimé l'esclavage et avait théoriquement donné l'égalité civique aux Noirs. En fait, elle ne l'a pas donné puisqu'ils ont été obligés, 100 ans plus tard, de mener une bataille. Et quelle bataille ? Pour simplement avoir la reconnaissance de leurs droits civiques. C'est le droit de voter, le droit de circuler, d'habiter, etc., où ils voulaient, etc. Et dans ce combat, ces gens s'étaient unis avec des protestants militants dans un puissant mouvement pour les droits civiques. Les Noirs n'ont pas obtenu satisfaction seuls. Ils ont été soutenus par un mouvement de Blancs. Et s'il n'y avait pas eu cet appui politique mené par des étudiants libéraux, des protestants, des démocrates, etc., Blancs, eh bien, leur combat aurait été beaucoup plus difficile. Après ces années-là, il y a eu les années Black Power. Des Noirs ont, pour aller plus loin, parce qu'ils considéraient à juste titre que c'était pas réglé, qu'il y avait encore beaucoup de discrimination à leur égard, etc., et des violences. Et ils ont fait un mouvement noir américain. Au lieu d'essayer d'unir leur combat à une gauche américaine radicale et organisée, etc., ils ont espéré que leur combat seul de Noirs gagnerait. Ils ont perdu. Le FBI a liquidé les Black Panthers physiquement, de façon assez radicale. Il faut croire que ce combat a échoué, puisque aujourd'hui encore, il y avait des violences policières contre les Noirs et qu'ils sont obligés de se battre. Ils tombent dans le même piège. C'est la communauté noire, entre guillemets, qui essaye d'obtenir une modification de l'attitude de la police blanche à leur égard. Ça va être difficile, parce qu'ils sont minoritaires, les Noirs, aux États-Unis. 12-14% de la population américaine. Alors, pourquoi ne joignent-ils pas leur combat aux hispanistes et à tous les gens socialement discriminés aux États-Unis? Parce que la discrimination, elle se fait aussi à l'égard des pauvres. C'est comme ça que fonctionne la démocratie américaine. Chaque communauté ou chaque groupe pensant être victime d'une discrimination, se bat, les gays, les femmes, etc., etc. Et c'est des combats qui, manifestement, ne débouchent sur pas grand-chose. Alors, bien sûr, tout ça est monté en épingle par la presse, etc. Alors, dans cette évolution vers l'américanisation de la vie politique, du combat politique, les réseaux sociaux et les médias ont joué et jouent toujours un rôle déterminant. Ils montent en épingle, ils nourrissent ce type de lutte qui ne mène à pas grand-chose.
Alors notons que si les Black Panthers, qui se revendiquaient très rouges, s'étaient forgés une image de guérilleros urbains, l'action quotidienne des Panthers dans les quartiers relevait surtout de services sociaux que l'État américain ne proposait pas. Concrètement, les Panthers faisaient bien sûr des rondes armées, mais ils tenaient aussi des garderies et des cantines pour enfants, des soupes populaires et ce genre de services publics loin du paramilitaire. Et vu qu'ils n'avaient rien à attendre de personne, on comprend leur volonté de s'organiser eux-mêmes. Par contre, en allant vite, des militants à la Malcolm X, eux, prônaient un combat noir pour les noirs et sans les blancs.
Who taught you to hate the color of your skin? Who taught you to hate the texture of your hair? Who taught you to hate the shape of your nose and the shape of your lips? Who taught you to hate yourself from the top of your head to the soles of your feet? Who taught you to hate your own kind? Who taught you to hate the race that you belong to? So much so that you don't want to be around each other. No, before you come asking Mr. Muhammad, does he teach hate? You should ask yourself, who taught you to hate being what God gave you?
Alors bien sûr, il y a des gens qui en France essayent de s'élever contre ce, parfois avec quelques maladresses, mais dans cet article, on cite une pétition intitulée « Manifeste pour une République française antiraciste et décolonisée », signée par 57 intellectuels et diffusée sur le site Mediapart le 3 juillet 2020. Des gens qui foncent dans le combat identitaire. Et j'ai entendu des témoignages de Français noirs qui sont à fond dans ce combat, prenant exemple sur l'émotion et le mouvement né du meurtre de George Floyd aux États-Unis. Ils essayent de mener le même combat. Perdu d'avance, parce qu'il y a beaucoup plus de blancs en France que de noirs, que d'arabes, que de musulmans. Ce sont des combats minoritaires. Et si on n'arrive pas à rendre cohérents ces combats et les grouper entre eux, ils sont battu d'avance. Alors, Marianne a riposté le 26 juillet 2020 en publiant un appel contre la racialisation de la question sociale. Mot d'ordre, notre République laïque et sociale, une chance pour tous. Et ils affirment, notre pays n'a jamais connu la ségrégation. Ça, en revanche, c'est faux. Leur combat est juste. Il ne faut pas que la question sociale, qui est fondamentale, disparaisse derrière les combats identitaires. Mais il faudrait être plus prudent dans ces affirmations. Notre pays a connu des ségrégations en Algérie, dans notre domaine colonial. Et en France même, il y a toute une partie de la population qui a été confrontée à des formes décomplexées de racisme. D'abord, ils ont été victimes de la crise économique sociale des années 80. Ça, les premières victimes ont été en grande partie ces gens-là, parce que c'était des pauvres. Pas parce qu'ils étaient noirs ou parce qu'ils étaient arabes ou musulmans, c'est parce qu'ils étaient des prolétaires. Face à cette dégradation et à cet appauvrissement et ces phénomènes de ségrégation ou de mépris dont ils ont été victimes, quelle a été leur réaction ? De rejoindre le combat révolutionnaire ou en tout cas le combat d'une gauche radicale pour changer les conditions sociales de ces populations entassées dans des logements banlieues sordides, etc. Non, non, pas du tout. Non, ils se sont dit, nous sommes un groupe, nous sommes les Arabes, nous sommes les Noirs, nous sommes les... Qu'est-ce que ça veut dire, ça c'est... Il est vrai que cette situation a été largement favorisée par l'effondrement des espoirs collectifs portés au XXe siècle par le mouvement ouvrier communiste. L'effondrement du Parti communiste, qui était la seule organisation réellement permettant d'intégrer dans son même combat le combat pour les conditions économiques et sociales et le combat contre les discriminations, parce que c'est un combat internationaliste, un combat humaniste, le combat des communistes, ben, ils n'existent plus. En face de ce vide, il s'est formé toute une sorte de petits combats, combat pour les femmes, combat contre le préjugé homophobe, même l'écologie, c'est pareil, c'est un ghetto. S'il n'y a pas intégration de l'écologie dans le combat politique, l'écologie restera impuissante et parfois ridicule. Alors, ce qui est grave, c'est que ces jeunes en particulier, hein, c'est un phénomène de jeunesse quand même. C'est chauffé par les réseaux sociaux, enflammé par les médias complaisants, etc. Ils privilégient les éléments de leur identité personnelle, la religion, l'origine, la race, définie par la couleur de peau.
C'est vrai qu'on a envie de leur crier dessus par moments, bande de crétins, avant d'être des noirs, des arabes ou des musulmans, vous êtes globalement surtout des pauvres.
Essentiellement, quoi qu'on dise, le facteur déterminant autour duquel s'arriment les autres dimensions de l'identité, c'est combien t'as de pèse, quelle est ta place dans les rapports sociaux de production. T'es un gars dont on exploite le travail ou t'es un mec qui exploite le travail des autres?
Un arabe pauvre, c'est un arabe. Un arabe riche, c'est un riche.
Un ouvrier, un prolétaire qui est interrogé, qu'est-ce que tu préfères, être exploité par un homme, une femme, un noir, un blanc? Le gars il dit bah non, je préfère pas être exploité quoi. Non mais qu'est-ce que ça change? À la limite, le combat contre le sexisme, l'homophobie, le préjugé racial, il peut être tout à fait récupéré par le patronat, par le capitalisme. C'est pas fondamental. La seule chose qui l'intéresse, le capitalisme, c'est me prenez pas mon pognon. Touchez pas au grisbille et laissez-nous dominer cette société où l'ignorance et la bêtise nous font tellement de bien.
La preuve, hein, c'est qu'on peut être homosexuel et de droite.
Évidemment, j'ai même vu des femmes de droite aussi. Hein. Non mais ce sont des combats sans issue. Alors, bien sûr, nous ne disons pas que ces combats sont des combats secondaires, négligeables. Ils sont indispensables. Il y a en France des préjugés, des comportements. Il y a en France des populations entières qui sont conduites à l'indignité, etc. Bah, méprisées. Et ces combats, il faut les mener. Il faut avoir un combat antiraciste. Moi, j'ai été pendant des années militant du MRAP, Mouvement contre le racisme, l'antisémitisme et pour la paix. Je me suis battu, et comme enseignant, je me suis toujours battu contre les préjugés raciaux, mais il faut aussi se battre contre les préjugés sociaux. Parce qu'en fin de compte, ces gens dans les quartiers qui se renferment sur leur identité musulmane ou sur leur identité arabo, etc., c'est essentiellement des exploités. À vouloir se rejeter comme ça dans un ghetto, ils se privent de l'indispensable solidarité avec les autres exploités. Bon, alors Frédéric Lordon, dans son article, insiste beaucoup sur la nécessaire convergence des luttes. Il ne faut pas les hiérarchiser, ces luttes. Toutes ces luttes ont leur utilité. Et elles sont indispensables. Et elles ne sont pas remplaçables les unes par les autres. Toutes ont leur place. Mais elles ne doivent pas se combattre. Elles ne doivent pas se mépriser ou s'ignorer. Au contraire, elles doivent essayer de converger vers des objectifs communs. Ces objectifs communs, c'est pas le maintien du pouvoir actuel. C'est pas le maintien de la société telle qu'elle fonctionne actuellement. La société telle qu'elle fonctionne actuellement, elle fabrique des inégalités, elle fabrique des différences et elle entretient les différences. Ça lui est extrêmement profitable. La division des citoyens, la division des travailleurs entre eux, c'est le principal moyen de gouverner des gens actuellement au pouvoir. Souvenez-vous, au moment des retraites, quand on a divisé les gens entre les retraités et les actifs, les jeunes et les vieux, on continue de le faire, ce truc-là. Vieux travailleurs, jeunes travailleurs, divisés. Je reviens sur Lordon, qui affirme que ces luttes ne sont ni antagonistes, ni contradictoires. Au contraire, elles vont dans le même sens et manifestent une même volonté. Quelle est cette finalité? C'est établir une société humaine débarrassée, autant que faire se peut, de toute forme d'oppression, de discrimination, de domination de toutes sortes, économique, raciale ou ethnique. On ne peut pas imaginer qu'une domination subsiste alors que les autres auraient disparu. Ça paraît peu probable. Ce serait une société en paix avec la biosphère, dans laquelle la nature n'est plus considérée comme une source inépuisable de richesses qu'on peut exploiter pour accumuler des richesses indécentes, au prix de l'épuisement de ces richesses et de la dégradation dramatique et parfois irrémédiable de l'atmosphère, des eaux, des terres. Une société humaine dans laquelle la loi suprême serait le bien commun et non la recherche frénétique du profit individuel. La domination sans partage de la finance, mondialisée, de gigantesques firmes multi-transnationales. En fait, il apparaît à certains, dont Lordon et nous-mêmes faisons partie, que ces combats sont liés et qu'il paraît peu probable qu'on arrive durablement à faire disparaître les comportements sexistes, racistes, discriminatoires, des problèmes écologiques essentiels si simultanément on ne mène pas un combat déterminé contre les rapports socio-économiques qui les produisent inévitablement. Comment obtenir, par exemple, l'égalité homme-femme alors qu'on n'est même pas parvenu à l'égalité des salaires ? Et que celui de la femme est encore le plus souvent un salaire d'appoint du ménage, dans lequel la femme d'ailleurs se tape encore le plus souvent l'essentiel du travail domestique et du soin des enfants. D'ailleurs, Lordon cite une lutte exemplaire, c'est celle des ouvrières noires, du groupe d'hôtels d'ailleurs dont Sarkozy est un des actionnaires. Là, enfin bref, ces femmes ont fait plus d'un an de grève. Dans ces femmes-là, il y avait trois types de domination. Une domination sexiste, ce sont des femmes. Une domination raciale, ce sont des noirs. Et une domination économique. Mais c'est par la domination économique qu'elles ont commencé. Et leur émancipation passe par leur émancipation économique, par de meilleurs salaires, de meilleures conditions de vie. La dignité, elle commence aussi par ça, et d'abord par ça.
Enfin, en attendant, vu que la lutte des classes, on la gagne jamais, l'égalité homme-femme, bah, elle passe toujours à la trappe. Regarde la femme soviétique, à part le droit de servir de chair à usine et de chair à canon, hein, parce que les femmes soviétiques, elles étaient dans l'armée rouge et elles ont contribué à la libération de l'Europe, leur sort à la maison n'a pas beaucoup changé. Qu'est-ce qu'elles ont gagné ? Ben, le droit de se faire casser la gueule à la guerre ou de se faire transformer en chair à usine. Allons-y sur le combat féministe, vu que de toute façon, celui de la lutte des classes, on n'est pas prêt de le gagner.
Oui, ça peut s'entendre. Une autre société, une transformation radicale de la société aboutirait pas ipso facto à une transformation des mentalités profondes, des trucs comme ça, le patriarcat très profond qui existe, qui subsiste. Ça demande du temps. Pas des siècles, hein, mais du temps, quelques générations. Mais pour l'instant, enfin, le combat féministe est rendu beaucoup plus difficile par la persistance de conditions économiques qui dévalorisent et qui défavorisent la femme. Je vais prendre un autre exemple, le combat antiraciste. Comment combattre le racisme ? Dans une économie mondiale encore largement coloniale, et qui maintient une grande part de la population mondiale dans un état de sous-développement économique et social, très profitable aux multinationales et aux marchands d'armes, mais qui plonge ces pays dans un état de guerre quasi permanente. Alors tout ceci, bien sûr, entraîne une migration de populations entières, fuyant la misère et la mort, et arrivant dans les pays développés, les nôtres, souvent au prix de souffrances indicibles. Et qui alimente une population pauvre dans les quartiers misérables, population difficilement absorbable dans des sociétés industrielles comme la France, elles-mêmes touchées par le chômage, la pauvreté et le mal logement. Condition idéale pour entretenir, développer des sentiments xénophobes, racistes, etc. Comment penser qu'on peut mener un combat écologique conséquent dans une société capitaliste marchande hyper financiarisée où tout est marchandise soumise à la sacro-sainte loi de l'offre et de la demande, y compris les biens les plus nécessaires aux besoins vitaux de l'humanité? Dans cette société, les choix les plus essentiels concernant la vie, le destin de l'humanité, l'eau, l'énergie, les transports, la nourriture, le logement, le travail, les loisirs, la culture, l'éducation, toutes ces décisions importantes sont soumises aux lois du marché et du profit capitaliste. Par exemple, dure loi du remboursement de la dette, austérité obligatoire, etc. Et on aboutit au déshabillage des hôpitaux, de l'éducation nationale, etc., etc. Comment penser dans la société française d'aujourd'hui que les citoyens ont barre sur les décisions et que l'écologie politique suffit à empêcher les catastrophes ? Ils n'ont même pas pu obtenir l'interdiction du glyphosate et des nicotinoïdes par le Parlement européen. Ils n'ont même pas pu obtenir ça. On leur a dit « touchez pas au Grisby » et Bayer Monsanto l'a emporté. C'est eux les plus forts. Vos mouvements écologiques, ils sont pour l'instant impuissants contre ces gens-là. Et on ne pourra rien faire de durable si on ne casse pas la puissance du grand capital. Rien. Toujours des sociétés inégalitaires. Des sociétés de l'indignité, de la dégradation de l'individu. Alors évidemment, est-ce que ces luttes sont possibles ? Est-ce qu'il n'y a pas des blocages ? La surpuissance des médias, les manipulations sur les réseaux sociaux, le fait qu'on renvoie dans les réseaux sociaux les gens à eux-mêmes, à la solitude en fin de compte. Bref, on a l'impression de la circulation d'informations et de la circulation des idées. Et en fin de compte, on a la circulation des mêmes idées.
Le Monde diplomatique, d'ailleurs, a fait paraître un article il y a peu où ils expliquaient qu'il y a un modèle dans la presse qui a changé. Avant, la presse pouvait forger l'opinion. Maintenant, c'est l'opinion qui forge la presse. Tu vas aller consulter des réseaux sociaux qui pensent comme toi. Le truc, c'est complètement inversé.
La grosse presse, aujourd'hui, joue un rôle extrêmement néfaste de manipulation, d'enfumage de l'opinion. Quant aux réseaux sociaux, ils ont leurs qualités il faut en faire usage. Ils sont un moyen de communication et puis ils sont aussi un moyen d'expression de gens qui n'ont aucune expression. Comme de toute façon, la quasi-totalité de la presse appartient au gros business, comment exprimer une opinion, comment exprimer un courant politique, philosophique, etc. Il reste les réseaux sociaux avec leur imperfection, avec les dangers aussi. La preuve, c'est qu'actuellement, les réseaux sociaux favorisent la dispersion des combats identitaires. l'impossibilité de leur réunion, là, une crise profonde de la gauche d'opposition radicale ou de tout ce qui pourrait faire barrage à l'oligarchie dominante. Donc, il faut faire avec, et dans une situation qui est une situation assez désastreuse en France, hein, puisque le parti Rassemblement National de Le Pen, qui a de plus obtus, de plus ignare dans le paysage politique, ce parti fait 30%, jusqu'à ce que, en quelque sorte, l'espace politique soit occupé par un parti qui mène presque officiellement à un langage, un discours et des propositions xénophobes, anti-immigration, de ségrégation sociale, de préjugés contre les gens qui n'ont pas une sexualité ou une vie familiale normalisée, quoi. Alors, il y a tout dans l'électorat, bien sûr, du Front National, mais quand même...
Même des homosexuels.
C'est quand même la droite. Cette droite est dominante en France, et que si on y ajoute les partis pseudo-centristes de Macron et compagnie, bien, on a une très confortable majorité pour la conservation sociale, et un très très faible espoir, pour l'instant, pour la transformation sociale. Et c'est pas les combats féministes, je m'excuse, hein. Et pourtant j'ai beaucoup d'estime pour les combats féministes. Lorsque j'étais étudiant, j'ai fréquenté le planning familial, etc., qui était un combat à cette époque-là pour la pilule et pour l'avortement, hein. Ça n'a pas été un combat facile. Et il y avait là-dedans de véritables héros et de véritables héroïnes du combat pour la transformation de la situation de la femme, etc., en France. Hein.
Sans parler de ce militantisme, bon, si je puis me permettre de dévoiler un petit pan de ton intimité, mais j'ai vu comment ça se danse chez toi. Tu as participé à l'éducation de tes enfants autant que ta compagne. Je t'ai déjà vu faire la cuisine, passer le balai, la vaisselle. Voilà, le combat, il est aussi dans le quotidien. Il n'est pas que dans les luttes et abattre le pavé, mais c'est dans la vie de tous les jours aussi que ça se passe.
C'est difficile parce qu'il faut demander aux gens une transformation individuelle. Pour l'instant, notre discours est pour une action collective. Pour compléter cette action collective, il faut en même temps que chaque individu obéisse à une philosophie qui dépasse les intérêts les plus immédiats, les plus triviaux, etc. Transformer la société et se transformer soi-même. C'est sûr que c'est un combat de front, mais il ne faut pas en oublier un pour l'autre. Et puis, il ne faut pas croire que la virulence d'un combat féministe amène plus d'hommes à devenir féministes, à devenir des hommes responsables et dignes. Ça évolue, hein, parce que nous sommes partis quand même d'assez loin. C'est un pays patriarcal, la France, hein. Et il y a eu sans doute beaucoup de progrès qui ont été faits. Comme par hasard, ces progrès sont faits dans quelle classe sociale? Dans les classes sociales aisées. Il y a des femmes battues dans la bourgeoisie, mais enfin, on me permettra de penser qu'il y en a beaucoup moins que dans des milieux prolétariens et pauvres. Beaucoup moins. Donc ça veut dire que l'aisance économique joue un rôle dans l'évolution des rapports hommes-femmes. Indubitablement. Donc ce qui a été possible dans la petite bourgeoisie, dans les classes moyennes, devrait l'être dans les classes plus populaires, qui sont dans des situations souvent matérielles, précaires, etc., et qui entraînent, selon toute probabilité, des violences familiales, conjugales, le malheur des enfants, de la femme et tout le monde d'ailleurs. Et c'est pareil pour l'éducation, hein. Combat pour l'éducation, c'est très bien, hein. Moi je l'ai mené lorsque j'étais enseignant, mais je voyais bien ses limites. Dans une société inégalitaire, dans une société qui fabrique de la pauvreté, ben on a une éducation à cette hauteur-là. C'est-à-dire on a des écoles de riches, des écoles de pauvres, inégales. C'est à la société de changer pour permettre de donner à tous les enfants une éducation. Mais pour ça, il ne faut pas laisser les gens dans la misère. C'est très difficile de sortir les enfants de la pauvreté par l'éducation, les diplômes, les trucs comme ça. Les difficultés qu'on a à les emmener à Polytechnique ou à Normal Sup. Et évidemment, c'est très inégalitaire, notre système. Pourquoi ne serait-il pas inégalitaire? Notre société est inégalitaire. Notre société fabrique de l'inégalité. Elle fabrique des déséquilibres. Et ben, on a les résultats qu'on mérite. Attaquons-nous à l'inégalité. Et dans ce combat, les replis identitaires, c'est un désastre politique. C'est une régression. On va devenir aussi crétin que les Amerlocs. C'est pas peu dire. Franchement, la vie politique aux États-Unis, hein, alors c'est très spectaculaire, hein. On a vu ces Noirs se battre pour que la police arrête d'être raciste et de taper sur les Noirs, les citoyens Noirs, etc. Et alors, ça change quoi la société américaine dans son ensemble? Et ça change pas grand-chose parce que il se trouve qu'aux États-Unis, les Noirs, ils sont essentiellement dans la classe ouvrière, hein. Alors bien sûr, il y a aussi des Noirs riches, hein, des Noirs... En France aussi, hein, il y a des Arabes riches, hein, une minorité qui s'en sort ne permet pas à la majorité de s'en sortir.
Alors si tu souhaites réagir à cet article ou à un autre d'ailleurs, hein, tu peux nous écrire en passant par le site de l'émission polemix et la voix off.com. l'éventuelle unité de force progressiste, on en parle encore avec Daniel, le temps de quelques mesures de Revolution Will Not Be Televised de Jill Scott Aaron.
You will not be able to stay home, brother. You will not be able to plug in, turn on, and cop out. You will not be able to lose yourself on Skag and skip out for beer during commercials because the revolution will not be televised. The revolution will not be televised. The revolution will not be brought to you by Xerox in four parts without commercial interruptions. The revolution will not show you pictures of Nixon blowing a bugle and leading a charge by John Mitchell, General Abrams, and Spiro Agnew to eat hog maws confiscated from a Harlem sanctuary. The revolution will not be televised. The revolution will not be brought to you by the Schaefer Award Theater and will not star Natalie Woods and Steve McQueen or Bullwinkle and Julia. The revolution will not give your mouth sex appeal. The revolution will not get rid of the nub. The revolution will not make you look 5 pounds thinner because the revolution will not be televised, brother. There will be no pictures of you and Willie Mae pushing that shopping cart down the block on the dead run or trying to slide that color TV into a stolen ambulance. NBC will not be able to predict the winner at 8:32 on report from 29 districts. The revolution will not be televised. There will be no pictures of pigs shooting down brothers on the instant replay. There will be no pictures of pigs shooting down brothers on the instant replay. There will be no pictures of Whitney Young being run out of Harlem on the rail with a brand new process. There will be no slow motion or still life of Roy Wilkins strolling through Watts in a red, black, and green liberation jumpsuit that he has been saving for just the proper occasion. Acres, Beverly Hillbillies, and Hooterville Junction will no longer be so damn relevant, and women will not care if Dick finally got down with Jane on Search for Tomorrow, because black people will be in the street looking for a brighter day. The revolution will not be televised.
Vous avez dit Unité, un édito de Serge Halimi du Diplo de Mai.
Alors vous avez dit Unité. Unité de quoi? Pourquoi? Dans quelle perspective? Alors, unité de quoi? De la gauche, alors quelle gauche? Et des écologistes. Il y a une réunion qui s'est déroulée au mois d'avril dernier à l'initiative d'un des candidats potentiels écologistes, M. Jadot.
Yannick Jadot, on le rappelle, représente l'une des tendances d'Europe Écologie Les Verts, celle qui pense que l'écologie est tout à fait compatible avec le capitalisme et l'économie de marché, ce qui est très écologiste comme pensée.
L'idée, c'était de trouver des formes de convergence entre les divers candidats ou les diverses formations de la gauche dans la perspective de l'élection présidentielle. Alors, il y avait les écologistes, il y avait le Parti Socialiste, il y avait la France Insoumise, etc. Il y avait, Mélenchon n'y était pas, puisqu'il a déjà posé sa candidature. Serge Halimi pointe sur les questions de géostratégie. Et il va pointer effectivement l'alignement de Jadot, non seulement sur l'économie de marché, mais aussi sur la capitale de l'économie de marché, c'est-à-dire Washington.
Washington, la capitale mondiale de la permaculture.
C'est ça. Voilà, donc tout cela est cohérent, mais cohérent d'une certaine manière et risque de poser un certain nombre de problèmes quand on est de gauche. Voilà. Alors, il nous dit que à l'issue de cette réunion, fort intéressante, très certainement, on s'est aperçu qu'il y avait d'importants points de convergence, par exemple, un certain nombre de questions aussi décisives que faut-il des repas végétariens dans les cantines scolaires? Est-ce que les réunions non mixtes au sein des organisations syndicales étudiantes sont de gauche ou pas de gauche, etc., etc. Et qu'il y avait une sorte d'un... Et bien voilà quoi. Et qu'il y avait une sorte d'impasse absolument gigantesque, d'angle mort de 300 degrés sur 360, en quelque sorte, sur la géostratégie. C'est-à-dire, en gros, la politique étrangère. Et que, au fond, là, on pouvait trouver des questions qui dérangent. Et Serge Halimi prend un petit texte que Jadot a publié sur les questions de politique étrangère. Et Halimi précise que c'est une des thèses de politique étrangère néoconservatrice, des néoconservateurs américains, et il dit d'ailleurs qu'on peut penser que de nombreux passages auraient pu être rédigés dans le bureau du Pentagone. par exemple, que la montée des tensions internationales est liée à l'agressivité croissante des régimes autoritaires qui dirigent la Chine, la Russie ou encore la Turquie. À croire que du côté occidental, il n'y a pas de provocation du côté des États-Unis, que l'Arabie saoudite est pacifiste et pas autoritaire, que Israël est totalement humaniste, etc., etc. Je reprends hein, les propos de Serge Halimi. Alors, il pointe plus précisément ce qu'il appelle le strabisme atlantique de M. Jadot en ce qui concerne Moscou et Pékin, qui ont le monopole des fausses nouvelles, du soutien à des mouvements extrémistes, du rachat de nos entreprises clés, Moscou et Pékin, peut-être surtout Pékin quand même. Par exemple, il paraît oublier que les pseudo-armes de destruction massive en Irak, l'appui occidental au régime saoudien, au front al-Nostra syrien, qui est une franchise d'Al-Qaïda, le brigandage américain qui inflige des amendes extravagantes aux entreprises concurrentes ou qui contraint Alstom à passer sous la coupe de General Electric. Et bien sûr, il n'y a que les Chinois qui rachètent ou mettent la main sur nos entreprises. Il serait plus pertinent, me semble-t-il, de reprocher aux autorités politiques françaises de laisser faire ça plutôt qu'aux Chinois de le faire. Mais on a des dirigeants d'aujourd'hui, d'hier et même d'avant-hier qui pensent que défendre les intérêts français, des entreprises françaises, des chercheurs français, des ingénieurs français, des salariés français, c'est un nationalisme abominable, contraire à l'ordre néolibéral mondial qui porte tant de bienfaits pour l'ensemble de l'humanité. Et il continue en soulignant que dans la politique européenne, Jadot charge uniquement la question de l'Ukraine, qui est martyrisée par la Russie alors que son but c'est de rentrer, je le cite, dans l'OTAN. Il signale aussi que le projet Nord Stream 2, c'est les gazoducs russes alimentant l'Allemagne en hydrocarbures, qui crée une relation évidemment assez étroite entre l'Allemagne et la Russie. Le nouveau pouvoir de Washington, celui de Biden, de Saint Biden, est fondamentalement hostile à ce projet. Et il sera intéressant de voir si l'Allemagne capitule devant Washington ou pas. Si c'était la France, elle aurait déjà capitulé. On peut peut-être penser que l'Allemagne, pour qui un euro est un euro, une Mercedes est une Mercedes, résistera. Or, que dit Jadot ? C'est qu'il faut mettre un terme au projet Nord Stream 2. C'est-à-dire qu'il y a un premier, hein, c'est-à-dire le renforcement des relations de commercialisation énergétique et industrielle entre la Russie et l'Allemagne. Et il termine son article en signalant que M. Benoît Hamon, dont les succès politiques sont évidents dans le passé, prétend que les désaccords au sein de la gauche ne sont pas si nombreux entre les écologistes et la gauche. Et je ne résiste pas au plaisir de vous lire la dernière phrase de Serge Halimi. Est-ce à dire que la France progressiste pourrait avoir demain la politique chinoise de Tokyo, la politique vénézuélienne de Washington, la politique arabe de Tel Aviv et la politique russe de Varsovie?
J'entendais l'autre jour Hamon, je crois, après cette fameuse réunion là avec la gauche, en additionnant leurs voix, les Hamon et les Europe Écologie Les Verts, ils étaient très contents, non pas parce que ça leur permettrait peut-être ce nombre d'électeurs d'accéder au pouvoir. Non, ils étaient contents parce que ils allaient pouvoir apparaître comme une alternative à la France insoumise.
Et voilà, c'est le grand but. C'est pas une alternative à Macron ou à la droite, c'est être une alternative à la France insoumise.
Comme à la présidentielle, où on a fait semblant de faire croire aux gens qu'ils avaient le choix entre le fascisme et le fascisme, hein, eût-il la tête de Macron ou celle de Le Pen. Donc on va nous refaire le même gag. Il y aura des donneurs de leçons qui se souviennent tous les 5 ans qu'Hitler était moyennement sympa, parce que le reste du temps, ils oublient pendant 5 ans que les nazis sont pas gentils. Mais tous les 5 ans, tu as des gens qui rappellent le réflexe républicain. Il faut voter fasciste pour éviter le fascisme. Ces gens ne sont pas là, éventuellement, pour nous diriger ou prendre le pouvoir, il sert juste à faire perdre la gauche. J'ose à peine tourner la tête parce que je vois qu'André est effondré et a la sienne dans ses mains.
Il faut quand même souligner que ce sont ces gens-là qui se présentent pour faire tomber la France insoumise qui crient à l'unité, quoi. Moi, je constate que le Parti Socialiste, après avoir nui très longtemps à la gauche, à la classe ouvrière, aux travailleurs, etc., et à tout le monde, ensuite, après, même quand ils sont plus au pouvoir, ils continuent de nuire. D'abord, leur électorat s'est barré en grande partie chez Macron. c'est-à-dire à quel point ces gens étaient de gauche. Et ce qui reste, les débris du Parti Socialiste, servent en fait à bousiller tout espoir d'unité possible de la gauche ou d'un programme un peu sérieux à gauche aujourd'hui.
Chez vous, amis auditeurs, je ne sais pas comment ça se passe, mais chez nous, bah, ceux qui se pavanaient encore avec un logo PS dans les élections ont discrètement dégagé le logo avec la rose rouge, machin, tout ça, parce que c'est pas vendeur. Puis bon, je sais pas pourquoi on fait tout ce patafouin. J'ai entendu des gens très intelligents sur France Intox qui continuaient à nous expliquer que Macron est un homme de gauche, puisqu'il sort du gouvernement Hollande.
Une bonne partie de l'électorat socialiste s'est reportée sur Macron, avec bonne conscience, hein, c'était pour faire barrage au fascisme, etc., etc. Mais enfin, faut pas oublier aussi une chose, c'est que une masse de jeunes, de futurs électeurs, des gens qui arrivent en âge de voter, en face du désastre des partis socialistes au pouvoir, eh bien, soit ils ne votent pas, soit ils votent Front National. Oui. Le plus gros parti des jeunes aujourd'hui, des électeurs, et les sondages convergent là-dessus, ils votent pour le Front National. Alors bonjour, encore une partie du naufrage, très coupable.
Bah oui, ils ont fait le constat que Hollande, c'était pareil que Sarkozy, ce qui n'est pas faux. Et comme on n'enseigne pas l'histoire, ils ne savent pas que cette solution fasciste a déjà été appliquée en France entre 40 et 44 notamment.
Français, vous avez vraiment la mémoire courte.
Suite et fin de cette spéciale diplo, avec la remarque sur les médias de Philippe Arnaud.
Radio Paris mort, Radio Paris mort, Radio Paris mort, Radio Paris mort.
C'était les 23 et 24 mai 2021. Il n'est bruit que du détournement d'avion de Ryanair par l'aviation militaire biélorusse pour s'emparer d'un de ses passagers, Roman Protasevich, opposant au président biélorusse Loukachenko. Un acte de piraterie qui viole toutes les conventions diplomatiques ainsi que toutes les règles régissant l'aviation civile internationale. Mais les journalistes qui retransmettent l'indignation des gouvernements occidentaux auraient pu rappeler qu'en l'occurrence, le gouvernement biélorusse a été à bonne école. Par exemple, le 22 octobre 1956, lorsque des avions de chasse français forcèrent un avion marocain parti de Rabat à destination de Tunis à se poser à Alger et y capturèrent 5 des chefs du FLN algérien. L'avion en question appartenait au sultan du Maroc Mohamed V, grand-père de l'actuel roi Mohamed VI. Autre exemple, le 18 avril 2009, lorsque les États-Unis interdirent à un avion d'Air France parti de Paris à destination de Mexico de survoler leur territoire et le forcèrent à se dérouter sur la Martinique. Motif, cet avion avait pour passager Hernando Calvo Ospina, journaliste colombien, collaborateur du Monde diplomatique. Le scandale dans l'affaire est que l'avion ne devait même pas se poser aux États-Unis, mais simplement les survoler. Mais Hernando Calvo Ospina était un opposant au président d'extrême droite colombien, Alvaro Uribe, allié et porte-rapière des Américains, ce qui était amplement suffisant pour en faire un dangereux terroriste. Dernier exemple, le 2 juillet 2013, lorsque, à la demande des États-Unis, l'avion officiel du président bolivien Evo Morales, de retour de Moscou, fut interdit de survoler la France, l'Italie, l'Espagne et le Portugal et forcé d'atterrir à Vienne en Autriche. Motif, le président bolivien était soupçonné de vouloir exfiltrer vers son pays le lanceur d'alerte Edward Snowden, recherché par les États-Unis et réfugié en Russie. Le président d'un pays souverain fut traité comme un petit voyou de quartier. On lui demanda de pouvoir fouiller son avion et il dut se gendarmer pour que cette humiliation ne lui fût pas infligée. Les Américains se seraient-ils permis de telles fantaisies avec le président chinois Xi Jinping ou avec la chancelière Merkel. Je serais curieux de voir si les médias se penchent sur ces instructifs précédents. Ils ne s'y sont pas penchés.
Quelle surprise! Et voilà les amis, c'est ici la fin de cette spéciale Diplo, à réécouter sur le site de l'émission, Polymix et la voix off.com. Avant qu'on se retrouve très bientôt sur cette même antenne, ce n'est qu'un combat, continuons le début. Salut!
Radio G. www.radio-g.fr. Le Labo des Savoirs, l'émission qui explore tous les champs de la science et invite les chercheurs au microscope, c'est tous les samedis à 13h sur Radio G 101.5 FM.